Merci d'écouter Radio Okapi. C'est l'heure de vous informer.
Radio Okapi.
Les informations, Gisèle Cage.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur Radio Okapi, la radio de la paix. Et tout de suite, votre journal du soir de ce samedi 30 mai 2026. Place à l'essentiel de l'actualité du pays et du monde. Ebola, mobilisation générale autour de la RDC. En visite à Kinshasa, le patron de l'OMS appuie la stratégie congolaise et insiste sur la force de son expérience face à la crise dans l'Est. Guerre à l'Est, les blessures invisibles. Au Sud Kivu, les traumatismes psychologiques explosent. Des cas alarmants documentés ces trois derniers mois et des experts qui appellent à une prise en charge d'urgence. Santé sexuelle des jeunes. Face aux tabous persistants, les parents appelés à briser le silence pour mieux protéger leurs enfants. Un message fort porté par le docteur Olive Ambamboula, invité de la rédaction, interrogé par Florence Kizalonga. Face à la menace d'Ebola, la mobilisation s'intensifie. À Kinshasa, l'Organisation mondiale de la santé réaffirme son soutien total à la RDC. En visite dans la capitale, son directeur général Tedros Adhanom a été reçu par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Il a salué l'expérience du pays dans la riposte aux épidémies ainsi que le leadership des autorités congolaises face à cette nouvelle flambée dans l'Est. Le point avec Jean Ganduka.
Le patron de l'OMS a salué l'expérience des autorités congolaises et s'est dit confiant quant à leur capacité à contenir cette flambée. Et cela malgré un contexte sécuritaire et humanitaire complexe. Face aux inquiétudes suscitées par cette nouvelle vague d'Ebola, Tedros Adhanom s'est voulu rassurant. Selon lui, malgré les défis liés au déplacement des populations et au contexte sécuritaire dans certaines zones touchées, le pays dispose aujourd'hui d'une expertise reconnue pour faire face à ce type de crise. Toutefois, la riposte est compliqué par l'absence de vaccins et de traitements spécifiques contre la souche Bundibugyo. Des recherches sont en cours, mais en attendant, la stratégie repose sur la surveillance, le dépistage, le suivi des contacts et l'isolement des cas avec l'appui technique et logistique de l'OMS. Par ailleurs, l'OMS déconseille la fermeture des frontières jugée inefficace pour contenir l'épidémie et potentiellement nuisible à la coopération internationale. Tedros Adhanom souligne que la lutte contre Ebola doit aussi prendre en compte les pratiques communautaires favorisant la transmission, notamment lors des funérailles. Il insiste ainsi sur la nécessité de renforcer le système de santé, d'impliquer les communautés et de consolider les partenariats afin de transformer cette crise en opportunité de résilience pour l'avenir.
Conséquence au directeur de l'épidémie d'Ebola, les frontières se referment et la vie tourne au ralenti à l'est du pays. Depuis plus d'une semaine, aucun vol ne relie la RDC à l'Ouganda. Bus et ferries transfrontaliers sont également à l'arrêt. Une décision des autorités ougandaises pour limiter la propagation de l'épidémie qui touche les deux pays. À Beni, Butembo, Lubero, Nord Kivu, l'inquiétude monte. Commerçants, voyageurs et patients redoutent l'isolement d'une région fortement dépendante de l'Ouganda, tant pour les déplacements que pour certains soins spécialisés. Les détails avec Martial Papimukeba.
Dans la région, de nombreux opérateurs économiques utilisent l'aéroport d'Entebbe en Ouganda comme principal point de transit vers l'Asie et d'autres destinations internationales. La suspension des vols risque donc de perturber les activités commerciales et les échanges. Autre préoccupation majeure, l'accès aux soins. Faute d'infrastructures hospitalières spécialisées suffisantes, plusieurs malades franchissent régulièrement la frontière pour se faire soigner en Ouganda. Polycarp Ndivito, président de la FEC, Butembo Lubero, explique.
Il y a un mouvement accru entre la RDC vers l'Ouganda à la chef de tous ces produits de consommation, que ce soit du côté des Arbes, du côté des Kasindi, que ce soit du côté des Mahagi. Nous nous déplaçons chaque matin, nous allons en Ouganda. Disons ajouter le blocage des vols, alors que c'est à partir de l'Ouganda que nous prenons ces vols pour aller soit en Asie, soit en Europe, à l'importation de ces biens de consommation. Il y a nécessité urgente d'implémenter des mesures qui vont nous aider à juguler d'abord l'épidémie au lieu de faire le blocage.
Les autorités ougandaises autorisent uniquement les transports des marchandises et des denrées alimentaires entre la RDC et l'Ouganda. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Et pendant que la riposte sanitaire s'intensifie, la tension monte dans les secteurs de l'éducation au Nord Kivu. À l'approche de grandes épreuves certificatives, ENAFEP, TENASOSP et examen d'État, les professionnels de l'enseignement haussent les tons. Inspecteurs, chefs des centres et surveillants exigent le paiement immédiat de leurs arriérés avant toute supervision. En cause, les primes de la petite session, toujours impayées, auxquelles s'ajoutent celles de l'année passée. Pour le syndicat national des professionnels de l'enseignement, SINAP, difficile de mobiliser les équipes sans rémunération. Écoutez, exaucé Bandou Bahouma, secrétaire provincial, au micro de Rosalie Zawadi.
C'est un véritable cri du cœur et d'indignation que nous lançons aujourd'hui. Pendant que nous sommes à la veille des grands rendez-vous nationaux, l'ENAFEP, le TENASOSP et bientôt la grande session ordinaire, mais dans quelles conditions les inspecteurs, les chefs de centre, les surveillants et les superviseurs vont-ils aller travailler? Jusqu'à l'heure où je vous parle, les prestations de la petite session n'ont jamais été payées. Et aujourd'hui, on demande à des fonctionnaires de se sacrifier à nouveau alors qu'ils ont des arrières. Les vendre affamés n'a point d'oreille, dit-on. Mais ici, le vendre affamé ne peut pas non plus surveiller ni superviser efficacement un examen national. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de tutelle de désintéresser urgemment les intervenants de la hors session. On ne peut pas réussir les examens de demain en piétinant les droits de ceux qui ont travaillé ailleurs. C'est pourquoi nous voulons travailler, oui, mais nous voulons aussi notre aide.
Du côté des autorités éducatives, on appelle au calme. Les directeurs provinciaux de l'éducation Nord Kivu 1 reconnaît la légitimité de revendication, mais met en garde contre tout blocage du processus. Pour Luc Baweza, l'essentiel reste la tenue des examens, surtout dans un contexte déjà difficile pour les élèves de la région. Il assure toutefois que Kinshasa a promis de régler les arriérés de l'année dernière avant le lancement de l'ENAFEP prévu le 4 juin. Quant aux primes en cours, les discussions se poursuivent. Après les tensions sécuritaires et sociales, une autre urgence souvent invisible refait surface, la santé mentale des populations touchées par la guerre. Au sud Kivu, les violences armées répétées laissent des traces profondes. De nombreuses personnes vivent aujourd'hui avec des traumatismes sévères. Une équipe de psychologues de la province vient de documenter ces trois derniers mois plusieurs cas jugés préoccupants. Face à cette situation, les spécialistes tirent la sonnette d'alarme et appellent à une prise en charge urgente. Écoutez Donatien Bachagalouke, psychologue clinicien à l'organisation psychosociale transculturelle, au micro de Jean Kassami.
Tout ce qu'on peut retenir est que l'augmentation alarmante de ces cas au site Kivu est principalement exacerbée par l'escalade des violences armées et la crise humanitaire. Ce sont des éléments très capitaux qui causent à ce que les gens, beaucoup plus une catégorie de personnes, soit les jeunes, sont beaucoup prédisposés au suicide. Les principaux facteurs de cette aggravation, beaucoup de personnes sont exposées d'une manière directe aux atrocités de la guerre. Les massacres, les déplacements forcés de population, il y a des violences sexuelles, souvent utilisées comme une arme de guerre. Laissant des séquelles psychologiques profondes même dans les vies des gens. Pour limiter les cas de suicides au site Kivu, particulièrement à Bukavu, il est crucial de briser les tabous autour de la santé mentale et d'offrir un soin psychosocial immédiat. Les gens doivent avoir l'intérêt à parler de leurs souffrances. Inciter les personnes en détresse à verbaliser leurs émotions auprès d'un proche de confiance.
On l'apprend à l'instant, un drame fluvial dans le Kwilu, une baleinière en provenance du port des Sangui dans les territoires de Massimanimba a fait naufrage ce samedi 30 mai sur la rivière Inzia, environ 4 kilomètres de Petit Bagata. Le bilan provisoire fait état d'au moins 3 enfants morts, 45 rescapés, plusieurs passagers portés disparus. Les opérations de recherche sont toujours en cours. Selon les premières informations recueillies auprès des autorités locales et des survivants, l'embarcation transportait près d'une centaine de personnes. Une surcharge serrée à l'origine de ce drame. Les autorités appellent la population au calme et assurent suivre de près l'évolution de la situation. À Kinshasa, place maintenant à la réflexion stratégique sur l'avenir sécuritaire du pays. De nouveaux ouvrages viennent enrichir le débat. La force navale de la RDC, doctrine, enjeux stratégiques et perspectives de puissance hydromilitaire à l'horizon 2035 et le courage du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un modèle de résistance, signé du professeur Alissa Diop Samoukera, officier général de la police nationale congolaise. Ces livres ont été baptisés ce jeudi au collège de hautes études de stratégie et de défense. À travers ces publications, l'auteur plaide pour une réforme en profondeur du système de sécurité en RDC. Reportage de Bernard Danyangi.
Alors que toutes les attentions sont tournées vers le frontière terrestre entre la RDC et ses voisins, le professeur Dr Alissa Diop attire l'attention sur les frontières liquides. Dans son premier ouvrage, il propose de placer la force navale au centre des priorités stratégiques.
La République démocratique du Congo, c'est un pays d'eau, mais un secteur un peu oublié. Alors que c'est une question de souveraineté, et ma recommandation, la force navale doit être dotée au même titre comme on équipe la force terrestre, comme on équipe la force aérienne, dans le but de valoriser l'hydro-militaire.
Le professeur Bati Lukwebo, parrain de la cérémonie de vernissage, estime pour sa part que ces deux publications apportent des pistes concrètes pour la réforme du système de sécurité et de défense en RDC.
Il met à la disposition des lecteurs des instruments qui permettront d'en tirer avantage pour ce qui est de la défense de notre territoire national à travers les eaux, mais également savoir emboîter le pas son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a suffisamment démontré que par son courage, on peut arriver à surmonter les situations, même les plus difficiles.
Les deux ouvrages publiés respectivement aux éditions européennes Dictus Publishing et aux éditions DL de Cameroun ont été préfacés par le professeur Émile Bongeli pour le premier et par le ministre Jacquemain Chabani pour le second.
Et toujours sur le terrain des idées, un appel à repositionner la RDC au cœur du jeu africain, reprendre la main. Nouvelle géostratégie de la recentration de la République démocratique du Congo en Afrique médiane. C'est le titre d'un nouvel ouvrage publié aux éditions de l'Institut géopolitique de l'Afrique médiane. Le professeur Augustin Mangemossi Luau Makwala, politologue et expert en relations internationales, qui signe ce livre de 350 pages analyse la place stratégique de la RDC au centre du continent. Préfacé par le professeur Bernard Badier, il plaide pour une prise de conscience nationale afin de faire du pays un véritable état pivot dans les domaines sécuritaires, économiques et diplomatiques. L'auteur, qui signe ici sa sixième publication en 15 ans, est au micro de Jean-Marc Matwaki.
Qu'on ne nous trompe pas, il n'y a pas d'Afrique sans la RDC. Et vous prenez la carte géographique de l'Afrique, vous allez vous poser la question, par quel chemin, par quel procédé l'Afrique se développerait sans le Congo? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Vous quittez l'océan Atlantique pour l'océan Indien, vous passez par la RDC. Vous quittez le nord de l'Afrique pour aller au sud de l'Afrique, vous passez par la RDC. C'est pourquoi Frantz Fanon avait raison de dire que l'Afrique avait la forme que lui a trouvée, un revolver dont la gâchette s'est trouvée au Congo. Plus tard, j'ai construit une autre géopolitique, d'ailleurs qui a été tout le temps soutenue par le FBOIA. Est-ce qu'il faut continuer avec la gâchette ou alors il faut changer? Qu'est-ce qui a posé problème? Les revolvers? Non, l'Afrique est toujours l'Afrique. Mais la main, cette main qui doit appuyer. Or, la gâchette était déjà rouillée.
À noter que la cérémonie de baptême de l'ouvrage a été présidée par le professeur Daniel Makiese Mwana Wanzambi, secrétaire général à l'intégration régionale. Il salue une contribution majeure et appelle à capitaliser sur cette réflexion pour renforcer la place stratégique de la RDC dans la région. Tensions vives à Kinshasa, colère et inquiétude au cadastre minier après un meurtre qui choque. Vendredi 29 mai, une atmosphère électrique a régné au siège du Kami dans la commune de la Gombe. Le délégué syndicaux ont exprimé leur indignation après la mort de leur collègue Kisimba Mukulu, victime d'une attaque à son domicile dans la nuit du 25 mai. Face à cette situation, ils exigent toute la vérité sur les circonstances de ce drame et réclament réclament de poursuites contre les auteurs. Un climat de peur s'installe désormais au sein de l'institution. Écoutez Gouli Soumbou, président de la délégation syndicale au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Nous sommes très indignés face à cet assassinat et nous avons saisi les compétences judiciaires afin d'éclaircir cette situation et que justice soit faite et que les accusés ou les auteurs de cet assassinat répondent face à leur acte devant la justice congolaise. Effectivement, nous étions avec le collègue Kissima Mukulu le vendredi dans la journée. Comme tout travailleur, il était à son poste de travail jusqu'à 16h. Et subitement, nous avons appris le samedi matin son assassinat dans son domicile, conduit à l'hôpital de Semka de Kijasa Gombe, sur l'avenue du commerce. Il a rendu l'âme succombée par les blessures le lundi à 13h. Nous présentons nos sincères condoléances à tous les travailleurs et nous protestons contre cet assassinat qui a touché notre cher frère et collègue. Et nous demandons à toutes les autorités compétentes, le ministère de la Justice ainsi que tout autre service, de prendre cette affaire au sérieux afin que justice soit faite.
Un vent de civisme souffle sur Kisangani. La jeunesse se mobilise pour redonner vie à sa ville. Plusieurs centaines de jeunes ont assaini ce samedi les abords du marché central, longtemps envahi par les déchets. Une action citoyenne lancée à l'appel de l'archevêque de Kisangani à travers le bureau diocésain pour la pastorale écologique en collaboration avec les autorités urbaines. Une initiative largement saluée par les habitants qui espèrent la voir s'inscrire dans la durée pour rendre la ville plus propre et plus agréable à vivre. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Brosse, balai, râteau et pelle à la main, Monseigneur Léonard Ndjadjindjaté, le maire de la ville et son adjointe, ainsi que de nombreux volontaires, ont investi les allées et les alentours du marché central. Ensemble, ils raclent le sol, ramassent les détritus et forment d'imposants tas de déchets aussitôt évacués à bord de tricycles. Une action concrète qui apporte un soulagement immédiat aux usagers des lieux.
Si ça continue ainsi, on voit le maire de la ville, on voit Monseigneur, cela va encourager tout le monde à travailler.
C'est très bien qu'on a la propreté. Il y avait beaucoup de saleté en ville.
Pour l'église, le marché étant un lieu clé d'approvisionnement en denrées alimentaires, il doit être maintenu propre car la santé de la population en dépend. Monseigneur Léonard Ndjadjindjaté lance d'ailleurs un appel à la responsabilité individuelle et collective.
La responsabilité de prendre soin de notre environnement, de prendre soin de notre maison commune. Il appartient d'abord à chacun de nous, à chaque famille, d'assainir le milieu immédiat où chaque personne vit.
De son côté, le maire de la ville de Lilikoundé souligne le caractère pédagogique de cette initiative. Il promet également de renforcer les mesures d'accompagnement pour en assurer la pérennité. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'armée israélienne a franchi le fleuve Litani dans le sud du Liban selon une annonce du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Une avancée hautement symbolique dans cette guerre qui dure depuis plusieurs mois. Ces dernières heures, des unités israéliennes ont progressé au-delà de ce fleuve stratégique long de plus de 100 km tandis que de frappes aériennes se poursuivaient dans le sud du pays et dans la vallée de la Beka. Pour Benjamin Netanyahou, cette opération vise à neutraliser les capacités militaires du Hezbollah et à sécuriser durablement le nord d'Israël, régulièrement ciblé par des roquettes et des drones. Le chef du gouvernement israélien assure que l'armée continuera ses opérations contre ce qu'il qualifie d'infrastructures du Hezbollah.
L'invité.
Parler sans tabou pour mieux protéger. La question de la santé sexuelle de jeunes au cœur de préoccupations. Les parents sont appelés à briser le silence autour de la santé sexuelle et reproductive, un enjeu clé pour la protection des enfants et des adolescents. Un message lancé par le docteur Olive Mbambula, gynécologue obstétricienne à l'occasion de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle célébrée le 28 mai de cette année. Elle est notre invitée et s'entretient avec Florence Kizalonga.
Docteur Olive Mbambula, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Santé reproductive, toute une journée dédiée à l'hygiène menstruelle. Qu'est-ce que les parents aujourd'hui considèrent cela comme un tabou? Comment les enfants doivent faire?
Merci beaucoup. La journée d'aujourd'hui est dédiée mondialement comme étant une journée chargée de l'hygiène menstruelle. Avant, c'était un problème tabou, les parents ne pouvaient pas parler de cela. Mais aujourd'hui, nous venons briser ces tabous-là. Nous devons donner l'information aux enfants et même à nos mamans qui considéraient cela comme étant un tabou. Les enfants doivent être informés. C'est quoi les règles? C'est quoi les menstrues? Ça survient comment? Comment elles doivent se comporter pendant ces moments? Comment elles doivent gérer les déchets post-menstruels? Voilà un peu ce que nous avons voulu faire à ce jour ici.
À l'occasion de cette journée, votre organisation passe dans les écoles et échange avec les enfants des 5e, 6e année primaire. Quel est le message clé que vous donnez aux enfants par rapport à l'hygiène menstruelle?
Nous avons informé ces petites filles que les règles pourront survenir d'un moment à l'autre. Et pendant qu'elles peuvent voir leurs premières règles, qu'elles ne puissent pas paniquer. Parce que c'est un moment de croissance. C'est un moment de transition entre l'enfance et la puberté. Alors, lorsqu'il y a les règles, la femme doit se comporter en adulte. Et la petite fille doit savoir que ça peut survenir, c'est normal. Et elle doit déjà se préparer avec sa bande hygiénique que nous avons démontré comment elle doit porter cela. Et elle doit aller informer sa mère. Si c'est à l'école ou quelque, je ne sais pas, ou à l'église, nous avons demandé à ces petites filles, lorsque vous voyez votre amie avec une tache derrière la robe, il faut aller calmement derrière elle et lui dire que non, vous avez taché. Et si quelqu'un a un tricot ou un foulard, peut toujours aider la petite fille à lui donner, à couvrir aussi ce qui est comme tabou, à couvrir cette tache de sang. Et après, elle doit aller à la maison pour s'échanger. Nous avons choisi les élèves de 5e et 6e primaire. Ce sont les élèves qui n'ont jamais vu les règles. Mais il y a quelques-unes qui ont déjà vu les règles. L'importance était de montrer à celles qui n'ont pas encore vu les règles ce qu'est les règles et pourquoi avoir les règles, comment se comporter pendant ce moment. Voilà les messages clés qu'on a amenés. La majorité des petites filles n'avaient pas encore eu l'information en rapport avec les règles. Nous leur avons donné la définition, nous avons donné le déroulement, comment elles doivent se comporter pendant ce moment et surtout elles doivent savoir que pendant que la femme a ses premières règles, ce que nous appelons les ménages, elle est maintenant prédisponible à avoir une grossesse. Voilà les messages clés qu'on a amenés à ces petites filles.
Quel danger qui guette la jeune fille pendant cette période?
Pendant cette période, c'est l'utérus qui est en communication directe avec les vagins, c'est-à-dire l'extérieur. Il y a risque d'infection. Donc la bande hygiénique ne doit pas être changée une seule fois par jour. La bande hygiénique doit être changée au moins 2 ou 3 fois. Les liquides, l'eau qu'on utilise doit être propre. Les récipients doivent être aussi propres. Les milieux, c'est-à-dire les installations sanitaires doivent être aussi propres. Donc il y a un risque accru des infections lorsque cela n'est pas pris en compte.
Aujourd'hui, vous brisez ces tabous. Alors, quel comportement que doivent prendre les parents qui ont des enfants, des jeunes filles dans leur maison?
Les parents doivent communiquer avec leurs filles. Donc, ils doivent vraiment développer l'amitié avec leurs filles. Lorsque la fille n'a jamais eu ses règles, à l'âge de 8 ans, 9 ans, la maman doit commencer déjà à préparer sa jeune fille en disant que d'ici là, il y aura ça, ça, ça. Le jour que vous voyez ça, vous devez venir. Et que pendant que vous avez commencé à avoir ces règles-là, évitez tel comportement avec les garçons. Donc, il faut vraiment un dialogue. Il faut une communication entre les parents ainsi que leurs filles.
Pensez-vous que c'est important qu'à l'école, ces genres de notions soient répétées tous les jours?
C'est vraiment très, très important qu'on puisse commencer à faire cette sensibilisation à l'école parce qu'il y a des celles-là qui n'ont jamais vu. Il y a des garçons qui sont aussi leurs collègues. Une fois que la fille voit ses règles, elle ne peut pas paniquer. Et ses collègues doivent déjà être informés que lorsque nous voyons ceci, c'est qu'il y a un problème. Nous devons chercher vite un foulard, nous devons chercher par exemple un habit pour essayer de couvrir notre femme et l'école doit faciliter les retours à la maison de la petite fille pour aller s'échanger.
C'est-à-dire, les règles pour une jeune fille, c'est un signe de vie.
Oui, oui, les règles, c'est un signe de vie, c'est-à-dire le fonctionnement de l'organisme est normal. Parce que quand il n'y a pas de règles et qu'il n'y a pas de grossesse, par exemple, on peut avoir certaines pathologies qui peuvent empêcher les règles de survenir. Donc, quand les règles sont là, ça prouve d'abord que le fonctionnement de l'organisme se passe très bien. Et ça pousse, la présence des règles signe aussi l'absence d'une grossesse.
Docteur Olive Mamboula, merci.
Merci beaucoup, madame.
Docteur Olive Mbamboula, invité de la rédaction, interrogé par Florence Kizalunga. C'était votre journal du soir de ce samedi 30 mai 2026, présenté par Gisèle Cage, mise en onde Pierre Diassinois. Merci de votre fidélité à Radio Capi, votre source d'informations fiables, sûres et vérifiées. Retrouvez l'intégralité de nos contenus sur radiocapi.net ainsi que sur toutes nos plateformes numériques. Très belle soirée en notre compagnie.